premier étage. Je travaille en centrale pour tous mes petits braquages. À 4h du matin, je pionce dans mon lit. Soudain, la sirène gueule et quelqu'un pousse un cri. Y'a du partout dans la tour. Les mecs, ça va saigner. Pas de commencer à l'aile gauche de la tour. Déjà tous mes potes mettent à saccager les pios. J'ai dit allez les mecs, on se paye une petite fête. Fait que j'arrive les lardus avec des mitraillettes. Y'a du baston dans la tour. Les mecs, ça va saigner. Pour les mains qui disent sortez de la bande de rats. C'est un temps pour l'armée si vous arrêtez pas. On va tout faire cramer. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes bien sur l'envolée, dans l'émission L'envolée, sur Fréquence Paris Pluriel, comme tous les vendredis de 19h à 20h30 en direct et en rediffusion le mercredi matin et à d'autres moments sur plein de radios locales qu'on en profite pour remercier au passage. Donc L'envolée c'est quoi ? L'envolée c'est une émission. Et une émission de radio et un journal contre toutes les prisons, donc qui entend faire une critique à la fois de la prison, mais aussi d'autres lieux d'enfermement, comme les prisons pour sans-papiers, les centres de rétention administrative, mais aussi les hôpitaux psy, les prisons pour mineurs. Et cette critique, elle se fait aussi avec la voix des les propos des prisonniers et des prisonnières qui nous écrivent et dont on relaie la parole à l'antenne et dans le journal. On rappelle aussi que ce journal est gratuit à l'intérieur. Donc si vous voulez être abonné, n'hésitez pas à nous écrire pour qu'on vous l'envoie gratuitement. Et on rappelle que ce sont les abonnements de l'extérieur qui financent l'envoi du journal à l'intérieur. Donc à l'extérieur, n'hésitez pas non plus à vous abonner.
Carrément. Et donc, bah, pour nous écrire, donc, vous pouvez déjà nous écrire à 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris. Vous pouvez aussi nous appeler tout au long de l'émission au 01 40 05 06 10 ou toute la semaine au 07 53 10 31 95. Voilà, donc n'hésitez pas à appeler et tout. Vous pouvez aussi nous contacter par mail à contact@l'envolée.net et au niveau des réseaux sociaux, alors on ne sait pas trop si Twitter ça fonctionne encore trop, mais en tout cas il y a Insta où c'est l'Envolée Journal. Sur lequel vous pouvez nous contacter.
Et donc, pour cette émission, autour de la table, on a Serge.
Salut tout le monde.
On a Julie de Salut. Solidarité Kanaky et Inès depuis la technique qui vous salue. Donc on a une grosse émission aujourd'hui.
Grosse émission et petit effectif.
Mais,
merci beaucoup Julie d'être là.
Ouais, de vous. Merci à vous.
On va commencer par lire trois lettres, dont deux lettres d'Aurélie. Et après, on va revenir un peu sur tout ce qui se passe pour les déportés de Kanaky. Mais on va revenir un peu sur qu'est-ce qui a été à l'origine de ces déportations et tout ça. Choses sur lesquelles on était déjà revenu dans des émissions précédentes l'année dernière. Mais donc là, on va reprendre un peu en long. On va surtout, et c'est pour ça principalement qu'on s'est rappelé avec Julie, là, c'est pour parler de Frédéric Groschin, qui est mort dans une cellule, déportée. Et donc, on prendra le temps de revenir là-dessus. On va aussi. C'est pas dans l'ordre où je vous décris les trucs, parce que mais vous passez le son d'un des prisonniers kanak qui est sorti et qui avait enregistré un témoignage sur comment tout ce processus s'est passé, et puis un peu revenir aussi sur les difficultés aujourd'hui que rencontrent en métropole les personnes qui ont été déportées, c'est quand même un sacré sac de nœuds, c'est vraiment une répression sourde en fait et silencieuse, et ce sera d'ailleurs l'occasion de parler de d'autres formes de répression qui sont actuellement en cours par la justice contre eux. Grosse émission principalement consacrée à la Kanaky, et surtout aux prisonniers kanak déportés en France. On commence par une première lettre de Kémy, où en fait c'est à moi de lire la lettre de Kémy, et j'avais complètement oublié que c'était à moi. Un bon retour aux affaires, comme on dit.
Faut que tu reviennes plus souvent.
Oui, c'est ça. Donc Moulin, je vous rappelle, c'est une lettre de Kémy. Moulin, le 10 février 2026. Coucou les amis. Mes derniers courriers ont été censurés, donc je reprends mon stylo en espérant que cette fois-ci, ce courrier vous parvienne. Je tenais à vous remercier pour votre soutien et votre détermination. Merci. Grâce à vous, les choses ont bougé de ouf. Je suis enfin sorti de la gestion isolée et fin février ou début mars, il y aura la commission DPS. Et le mien devrait, donc le statut DPS, devrait sauter. Le 12 février, j'ai rendez-vous avec la SPIP pour préparer un transfert en CD. Mais bon, tant que c'est pas fait, je me réjouis pas trop vite. Mon retour en détention se passe bien. On a fêté mon retour, mort de rire. Côté santé, tout va bien. J'ai perdu 10 kilos, mais ça tombe bien, je vais en profiter pour reprendre le sport. J'ai le moral au max. Je suis déter, j'ai la niaque. Là, il est 2h45 du matin et je m'enjaille en écoutant du son. Je suis en mode soirée écriture. Sérieux les amis, merci beaucoup pour votre soutien. J'ai jamais connu d'amis aussi déter et vrai. Bientôt, je serai dehors et je compte bien me joindre à vous, si vous êtes OK, bien sûr. Bref, je reste là pour ce soir. J'ai encore quelques lettres à faire et à poster à 7h. On lâche rien en attendant de vous lire. Prenez soin de vous. Des bises, Kémy. Il n'y a pas d'arrangement.
Bah, merci beaucoup, Kémy, pour cette lettre qui fait vraiment très, très plaisir. Et peut-être avant qu'on commence à y répondre, rappeler un peu ce qui s'est passé pour Kémy ces dernières semaines. Bah, Kémy, c'est un correspondant de longue date et un ami de l'Envolée qu'on lit souvent à l'antenne et dont les auditeurs et auditrices ont sûrement souvent entendu parler. Et ce qui s'est passé pour Kémy, c'est que bah, il était en gestion isolée à Moulins-Yzeure. Kémy, il est aménageable, donc il peut prétendre à un aménagement de peine. Et bah, depuis vraiment des mois, l'administration pénitentiaire lui faisait miroiter un transfert en CD, donc où c'est beaucoup plus facile d'avoir un aménagement de peine. Et à la fin du mois de janvier, Kémy l'a appris par un maton que en fait c'était pas du tout vrai et qu'il n'était pas du tout question de le transférer en CD, donc ce qui compliquait en fait vachement la sortie. Et donc, à ce moment-là, Kémy a décidé de se mettre en grève de la faim et en grève de la soif qu'il a assez rapidement arrêté. Donc, les amis et les soutiens de Kémy ont beaucoup appelé à ce moment-là la prison, ont contacté tous les services pour un peu relayer cette situation. Et ce que demandait Kémy, c'était la fin d'abord de la gestion isolée, la levée de son statut de DPS, puisque c'est aussi quelque chose qui rend hyper compliqué toute la question des aménagements de peine. Et il demandait aussi son transfert en CD pour pouvoir commencer à préparer sa sortie. Alors, assez rapidement, la direction l'a reçu, s'est engagée à solliciter le retrait du statut de DPS, à soutenir sa demande de transfert. Et c'est quelques jours plus tard qu'il a su, comme il le dit dans sa lettre, que sa gestion isolée a été levée. Donc voilà, c'est un peu pour rappeler tout ce qui s'est passé ces dernières semaines.
Ouais, c'est important de bien préciser que en fait c'est pas arrivé comme ça d'un coup d'un seul voilà. Et donc en vrai ça fait comme tu le disais Inès, ça fait quand même grave plaisir d'avoir une aide comme ça avec les dernières semaines qui se sont passées. Peut-être pour repréciser deux trois bails. Kémy, il a fait partie de ces gens un peu qui ont expérimenté la gestion isolée, qui est un truc qu'a mis en place l'administration pénitentiaire, une forme de régime un peu bizarre où dans lequel t'es pas vraiment à l'isolement. Voilà. Et donc t'as pas non plus en fait toute la jurisprudence qui peut exister sur comment on te met à l'isolement et tout. Qui est un truc qui fait que tu te retrouves à avoir des conditions d'isolement, mais sans être sur le statut juridique de l'isolement, et donc qui fait qu'il y a un certain nombre de recours que tu vas pas pouvoir faire. Et à ça s'ajoutent en plus différents nouveaux statuts, dont le statut DPS. Donc voilà, donc on voit vraiment comment l'administration pénitentiaire, elle te fout un certain nombre d'étiquettes petit à petit, qui s'accumulent quoi. Et à la fin, faut que t'ailles voir ton SPIP, et puis après derrière le juge d'application des peines pour réussir à négocier un aménagement de peine, alors qu'on t'a foutu un certain nombre d'étiquettes qui vont jouer contre toi. Et donc Kémy, il sait très bien que le premier truc qu'il y a à faire c'est enlever ces putains d'étiquettes quoi. Et Kémy, en fait tous les gens qui sont à l'intérieur, et donc on lui avait promis un certain nombre de choses qui n'ont pas été faites. Peut-être pour préciser aussi le bail de CD et de centrale, en CD il y a très très rarement en CD, c'est fait pour être aménageable. Enfin voilà, c'est des périodes où tu dois être aménageable. Et ce qui est beaucoup moins le cas dans les centrales où on enferme les gens pour des très très longues peines. Va mourir là-bas. Voilà, donc petit à petit, les étiquettes, elles sont en train de s'enlever. Voilà, mais bien sûr, l'administration pénitentiaire, dans ce genre de situation, elle te teste. Enfin, voilà, elle attend que tu montres patte blanche. Et elle peut aussi très rapidement faire un retour en arrière. Voilà, et donc bah, là, c'est quand même assez fortement exprimé par Kémy, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de promesses qui lui ont été faites il y a quelques semaines, et maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe sur la réalisation. Pour l'instant, ils tiennent les engagements qu'ils ont pris, mais on sait en fait, ils peuvent assez rapidement revenir en arrière, ou un micro-incident peut toujours être utilisé contre lui. Voilà, il suffit qu'un maton il soit pas bien réveillé et tout.
Et ouais, carrément, Kémy a bien raison de dire qu'il reste hyper vigilant, et tant que c'est pas fait, faut pas y croire. Et peut-être moi, un autre truc que je voulais dire par rapport à la lettre, il dit au tout début que ces derniers courriers ont été censurés, et en fait c'est aussi quelque chose qu'il faut rappeler. Au début de la grève de la faim et de la soif de Kémy, le premier réflexe qu'a eu la direction de la tôle à Moulins, ça a été de lui couper ses lignes téléphoniques. Voilà, comme d'habitude, pour s'assurer que rien ne sorte, pas de vagues et pas de bruit. Et de nouveau, retour de la censure. Donc ça montre bien aussi que ces solidarités sont très importantes, et qu'en même temps, la tôle menace sans cesse de les couper de nouveau, quoi.
Carrément. Et ça, c'est vraiment tout le truc. Le truc qu'on essaierait peut-être de retenir de cette grève de la faim, c'est vraiment le rôle essentiel de l'extérieur quand on mène une grève de la faim à l'intérieur, parce que clairement, à l'intérieur, ils n'en ont rien à péter. Surtout que là, franchement, en fait, c'est aussi dans la lettre, quoi. En fait, il a perdu 10 kilos, Kémy. Donc, en fait, c'est quand même vraiment énorme. C'est allé très, très, très vite. Et au début, la grève de la soif, il l'a quand même tenue, si mes souvenirs sont bons, entre 3 et 4 jours. Qui est, en fait, pour une grève de la soif, extrêmement dangereux. Et tout. Et c'est pas ça qui les a fait réagir. C'est-à-dire qu'en fait, à l'intérieur, on va le voir tout à l'heure dans les situations qu'on décrit, et puis dans la lettre à venir d'Aurélie. Mais en fait, la santé des prisonniers, ils s'en foutent. Voilà. Et donc, par contre, si à l'extérieur, il y a des gens qui font du bruit et qui mettent en lumière des défauts de soins, ou le fait que personne ne fait attention, là, à ce moment-là, ça commence à réagir. Voilà. Et donc, peut-être le truc à retenir sur cette grève de la faim, c'est le fait que une grève de la faim, elle se fait de l'intérieur, mais elle doit être organisée avec l'extérieur pour que il puisse y avoir le maximum d'écho et le plus de solidarité à l'extérieur, de gens qui vont dire on sait ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire laisser mourir quelqu'un à l'intérieur. Donc là, c'était peut-être aussi ce truc un peu de repréciser que perdre 10 kilos, c'est pas rien. On est rassuré que tu aies atteint ton poids de forme. c'est au top. En vrai, on préfère faire des blagues, parce que c'est sûr, mais en vrai, ça veut dire de l'intensité de la chose aussi, et il faut vraiment pas du tout le minimiser. Puis le dernier truc que moi je te dirais, c'est pas trop fort la zik à 2h45, quoi. voilà, parce que toi-même tu sais. tu vois avec tes co. mais voilà. Mais en tout cas, en vrai, ça fait carrément plaisir de lire de telles nouvelles. C'était stressant, hein, de l'extérieur, il faut le dire, ce qui s'est passé. Et on a essayé de faire ce qu'on pouvait. L'autre chose aussi qu'il faut repréciser, c'est que cette fois-ci, ça a pu un peu marcher. Ça ne veut pas dire que ça fonctionne à chaque fois. Et tout. On va passer aux lettres d'Aurélie.
Yes, on a deux lettres d'Aurélie, donc qui nous viennent de Rennes, et la première, elle date du 2 février. Hello l'envolée, comment ça va? Moi, la gentille docteur de l'IXA m'avait prescrit du Colyre car j'ai eu un souci à l'œil. Résultat, mon état a empiré. Cela m'a brûlé le contour des yeux. Non, c'est pas une blague. C'était comme si, après le traitement du collyre, j'avais attrapé un coup de soleil autour des yeux. Résultat, d'excérile sur la peau. Une surveillante m'a dit qu'elle avait... Enfin, la médecin avait commis une faute sur une autre détenue. Bizarrement, cette docteur vient de partir en vacances pour 5 semaines. Bref, l'avocate s'en occupe. Sinon, j'ai vu pour le côté pénal de pourquoi je suis en détention. J'ai enfin eu l'expert le 14 janvier. Maintenant, j'attends son rapport. Bise, Aurélie.
Bah, merci beaucoup pour ta lettre. Bah, tout d'abord, peut-être pour l'expert, en fait, faut rappeler que c'est un expert qui va être utile dans l'aménagement de la peine d'Aurélie et qu'en fait, ça fait des années qu'elle attend cette putain d'expertise. Cette expertise, elle avait déjà eu lieu, mais sauf que l'expert n'avait pas écrit son rapport, si mes souvenirs sont bons. Voilà, et donc il fallait qu'elle en ressollicite un nouveau. Et après, derrière, il a encore un délai. Alors je ne sais pas pour combien dans ce cas-là, mais dans mes souvenirs, l'année dernière, il avait 3 à 6 mois pour rendre son rapport. Et en fait, il ne l'avait pas rendu dans les temps. Donc là, ça va être un peu pareil. Donc j'imagine qu'il doit y avoir un soulagement qui ait eu enfin cette nouvelle expertise, mais qu'il va quand même se maintenir un stress à ce niveau-là, de savoir si vraiment le rapport il va arriver. Voilà. Et peut-être l'autre truc, c'est clairement sur la santé.
Ouais, bah carrément, on voit toujours à quel point le Luxa, donc qui est théoriquement le service de santé de l'atole, on dit bien théoriquement parce qu'on voit que c'est au mieux défaillant, au pire vraiment un niveau de négligence, et on va en reparler tout à l'heure malheureusement à propos de ce qui s'est passé pour Frédéric Groschin, de ces questions de refus de soins en prison. Donc c'est l'œil, et puis ça peut vraiment conduire à des situations qui sont absolument dramatiques. Aurélie nous avait parlé à plusieurs reprises de la question de Luxa, et c'est quand même assez fou de voir que problème de santé après problème de santé, c'est vraiment toujours la même chose.
Ouais, puis enfin là je sais pas, par exemple il y a ce bail de la médecin, elle part 5 semaines et tout, donc certes il y a ce bail de conflit et tout ça qui pourrait y avoir avec les autres, et puis de fuite un peu et tout ça, mais il y a aussi et surtout par qui est-ce qu'elle a été remplacée, est-ce qu'elle a réellement été remplacée, comment ça se passe et tout. Et je pense que là, de toute façon, de manière un peu générale, on est sur c'est quoi la pseudo-santé en détention, et notamment les yeux en particulier, tout ça, c'est quand même des trucs particulièrement sensibles. De toute façon, c'est toujours géré à la mort-moelle neuve. Donc, quand c'est un mal de crâne ou une grippe et tout ça, en fait, on sait que tu vas pas être soigné et tout. Et à chaque fois, en fait, c'est n'importe quoi qui est fait, mais on va faire pseudo un petit truc pour se donner bonne conscience, te filer un peu de doliprane, te filer, enfin voilà. Mais tu vas jamais voir quelqu'un. Et qu'un médecin généraliste se disent que je suis capable de soigner des yeux, enfin c'est du délire quoi en fait. Je veux dire, en fait, t'aurais à l'extérieur aucun médecin généraliste qui se dirait vas-y, en fait moi je suis capable de soigner des yeux, en fait c'est pas leur métier, ils savent pas faire, voilà. Mais parce que vu qu'on va pas se faire sortir les gens, et vu que les ophtalmos ils vont pas venir à l'intérieur de la tôle, il y a ça qui se passe. Et donc là on espère que ça va pas être trop grave et tout, mais en fait c'est sûr qu'en fait il y a des médocs que tu peux filer, et particulièrement sur les yeux et tout, qui peuvent avoir l'effet inverse du bail.
Et puis, tout ce que tu décris, Serge, c'est encore si tu arrives à voir un médecin. Parce que dans plein de cas, en fait, tu demandes, et puis y a plein de trucs, quoi. On dit au médecin, ah ben non, finalement, il avait plus mal, il ne voulait pas sortir parce que les matons ont la flemme de t'amener jusqu'à Luxa. Ou alors, il n'y a pas de place. Ou alors, si cette médecin part pendant 5 semaines et qu'elle n'est pas remplacée, ce qui est quand même très possible, tu vas pas avoir de médecin non plus. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on raconte tout le temps à l'antenne de l'Envolée. Là, c'est du mauvais soin parce que le service de santé de l'atole, c'est une vaste blague. Dans plein de cas, c'est carrément des refus de soins, quoi, qui sont motivés de manière diverses et variées par l'administration pénitentiaire.
Et puis quand enfin, tu aurais potentiellement réussi à avoir un rendez-vous à l'extérieur avec un spécialiste que tu attends depuis un an, là, à ce moment-là, il n'y a plus d'escorte pour pouvoir t'amener. Ouais. Dans l'éventail de tous les trucs qui leur permettent de jamais te soigner. Quoi.
Bah ouais, de ouf. Hein. C'est ce qu'on dit hyper souvent, c'est que les personnes qui sont à l'extérieur voient la dégradation des systèmes de santé déjà à l'extérieur, comme c'est difficile d'avoir accès aux soins. Donc voilà, maintenant, il faut transposer ça à la prison et imaginer à quel point c'est l'enfer dès que tu as la moindre maladie en prison et les proportions que ça peut prendre pour un truc en fait qui aurait pu être soigné assez vite quoi.
Carrément. On passe à la seconde lettre.
Carrément. Donc c'est une lettre toujours d'Aurélie qui nous date du 13 février. Bonsoir à toute l'équipe de l'Envolée. J'espère que vous allez tous bien. Généralement, si j'écris, c'est pas uniquement pour donner quelques nouvelles. Il y a toujours des péripéties en détention. Aujourd'hui, je dois dire qu'il y a du level à Rennes chez les femmes. J'ai un ami qui est en détention ailleurs. Aujourd'hui, ma SPIP s'est permise de me donner les antécédents judiciaires de cette personne. Atteinte à la vie privée. Méfiez-vous des SPIP de tout le monde. Parce qu'en plus, elle voudrait me dicter pour autre chose ce que je dois dire à mes enfants. Maintenant, les autorités, ça sera bonjour, au revoir. Ah là là, ça fait peur. À très vite, j'ai hâte de vous raconter la suite. Aurélie.
Ok, bah on espère que la suite elle sera moins pire que ce que tu nous décris là. C'est un truc qu'on rappellera jamais assez, mais les SPIP, c'est vraiment l'enfer. C'est-à-dire qu'en fait, tu as vraiment besoin d'eux pour réussir à faire ton aménagement de peine et tout ça. Et c'est soi-disant les travailleurs sociaux en détention et donc des gens qui devraient être là pour t'aider. Sauf qu'en fait, c'est aussi des matons et leur rôle, il est hyper important dans la manière dont ta détention et ta peine, elle va être aménagée ou pas et tout ça. Et ils ont un rôle hyper fort là-dessus. Et donc, bien sûr, qu'en fait, bah, comme beaucoup de travailleurs sociaux, en fait, ils vont t'expliquer comment tu dois mener ta vie voilà, et décider à ta place de ce que tu veux, ce que tu devrais faire, sans jamais considérer ce que toi tu veux et tout. Quoi. Et bah là, je pense que les deux cas que tu nous présentes, c'est vraiment cas quoi. Enfin, en tout cas, particulièrement sur tes enfants, en fait, ça les regarde pas quoi, tout simplement. Sauf qu'après derrière, tu sais aussi que ils vont avoir le poids de réutiliser ça contre toi pour lorsque tu vas faire une demande d'aménagement de peine ou ce genre de truc pour dire voilà ce qu'ils peuvent écrire à part régler ses liens avec les rapports familiaux, ce genre de trucs, enfin voilà, des trucs voilà qui se permettent de contrôler la vie complète des gens et d'aller encore plus dans les questions d'intimité et tout. Et ça, on arrive sur le second point, c'est qu'en fait, se permettre de dévoiler des trucs de vie privée. Alors déjà, on aimerait bien savoir d'où est-ce qu'en fait, ils ont accès à ces dossiers-là. Et je pense pas que les SPIP, ils aient le droit d'aller regarder les fiches pénales d'autres personnes qui sont même pas dans leur établissement et tout, quoi. Donc ça, c'est quand même vraiment hallucinant, mais c'est bien toute la fourberie de ces SPIP. Quoi.
Oui, et puis cette histoire de fiches pénales, c'est quelque chose qu'on voit quand même là depuis pas mal de temps. Des fiches pénales qui fuitent dans la presse pour des trucs divers et variés. On l'avait vu avec les fiches pénales des premières personnes qui avaient été transférées au QLCO à Vendin. Enfin, voilà quoi, c'est un peu le festival de l'administration pénitentiaire et ses personnels, hein, que ce soit les SPIP ou d'autres, qui se fichent complètement de ce qu'elles sont censées faire avec des informations soi-disant confidentielles.
Puis c'est très souvent utilisé aussi par les matons à l'intérieur, voilà, pour envenimer les tensions. Quoi. Dans leur stratégie de diviser pour mieux régner, voilà, ils vont soit réellement utiliser la fiche pénale de quelqu'un, soit faire balancer une rumeur là-dessus pour faire en sorte que des gens se prennent la tête entre eux. Et c'est très 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 régulièrement utilisé par les matons pour renforcer encore plus leur pouvoir sur les gens à l'intérieur et pour faire en sorte de diviser toujours encore plus la détention, quoi.
Et ici par les SPIP, visiblement.
Ouais, et aussi carrément par les SPIP. En tout cas, Aurélie, merci beaucoup de tes lettres. Content quand même de savoir que cette expertise a été faite, même si j'imagine, comme d'hab, toutes ces expertises aussi, puisqu'on n'en a pas revenu dessus, mais c'est toujours des moments quand même assez éprouvants et tout. Mais en tout cas, merci beaucoup.
Bah ouais, bon rétablissement. On espère que ton œil, ça va vite aller mieux. Et on passe un petit coup de musique.
Ouais.
Bouge à comme un péqué goumin. C'est pas grave si c'est pas mon copain.
C'est pas le dernier coco lapin. Dans l'animalerie y'en a plein. Ou poupée partie, c'est pas grave. Papa les bas moins, t'es même pas capable. Ou pas qu'à investir, c'est pas grave. Au fond je savais que t'étais pas capable. Poupée partie, c'est pas grave. Papa les bas moins, t'es même pas capable. Ou pas qu'à investir, c'est pas grave. Au fond je savais que t'étais pas capable. Chez Dimi, nous peut pas dormir ou toujours qu'à déconner. Moi je n'ai pas envie, demain c'est samedi, je veux me défouler.
Enken, dis-moi pourquoi t'étais fâché. Il a menti la vérité qu'il t'a caché. Dis-moi ce qu'il t'a fait, on va aller crever son pneu. Pour fêter ça, on va aller prendre un feu. C'est qui la salope qui veut détruire ton foyer? La Walpa qui devant nous sait pas parler. Nous pas qu'à faire colle, nous ni l'argent pour voyager. Depuis c'est même Enken, fais pas chier.
Où j'assave que mon péqué goumin. C'est pas grave si t'es pas mon copain. C'est pas le dernier coco lapin. Dans l'animalerie y'en a plein. Poupée partie, c'est pas grave. Papa les bas moins, t'es même pas capable. Ou pas qu'à investir, c'est pas grave. Au fond je savais que t'étais pas capable. Poupée partie, c'est pas grave. Papa les bas moins, t'es même pas capable. Ou pas qu'à investir, c'est pas grave. Au fond je savais que t'étais pas capable.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On est toujours en direct, comme tous les vendredis soirs, de 19h à 20h30 dans l'émission L'Envolée sur FPP. Donc avant de reprendre, ah oui, et je précise qu'on est le vendredi 27 février parce qu'on a dit qu'on pensait à dire la date et qu'on précisait qu'on était en direct, mais on a évidemment oublié de le faire au début de l'émission, donc je le précise maintenant. Alors, pour redire rapidement les contacts, on peut nous appeler en direct pendant l'émission au 01 40 05 06 10 et toute la semaine sur le répondeur et les applis au 07 53 10 31 35. On est aussi joignable par mail à contact@l'envolée.net. Et on peut nous écrire au 1 à l'envolée-fpp, 1 rue de la Solidarité, 75019 Paris. On est aussi sur Insta à l'envolée-journal. Et on est peut-être un peu sur Twitter et Facebook, mais pas hyper joignable. Donc, il vaut mieux nous écrire à l'envolée par mail, par téléphone ou sur Insta. Voilà.
Facebook, c'est sûr que non. Hein. On est
off.
Le compte est encore là, mais il est plus géré. Merci. Comme on le disait en début d'émission, on va parler de ce qui se passe pour les déportés kanak dans les tôles françaises, enfin de métropole. Avec Julie de Solidarité Kanaky, peut-être pour rappeler un peu Solidarité Kanaky, ça s'est créé, comme ça permettra aussi d'expliquer un peu le contexte dans lequel...
Le collectif Solidarité Kanaky s'est créé en 2007, c'était autour de luttes sociales qu'il y avait en Kanaky, menées par l'USTKE, le syndicat indépendantiste local, et avec des personnes qui ont aussi été mobilisées au moment des prisonniers de la grotte d'Ouvéa, des prisonniers de Yaï, qui avaient été déportés en France, dans fin des années 80, au moment de la grotte d'Ouvéa. Et donc, il y a des anciens militants qui étaient encore là, et en même temps, d'autres organisations solitaires qui Voilà, on a créé le collectif Solidarité Kanaki. Donc la Kanaki, c'est le nom.
Peut-être juste pour rappeler, Grotte d'Ouvéa, c'est un massacre de.
Massacre de la Grotte d'Ouvéa. Donc il y avait eu une prise d'otage sur la gendarmerie à Ouvéa. Et il y a eu un massacre de 19 indépendantistes sur place par l'État français. Voilà, et donc c'était aussi, on était entre les deux tours des élections présidentielles et se jouait bien sûr la question de l'indépendance, la question de la place du peuple kanak pour son autodétermination, qui est toujours d'actualité. Donc à sortie de ces événements-là, il y a eu les accords de Matignon à Oudinot en 88, et après les accords de Nouméa en 98. Et donc nous, le collectif Solidarité Kanaki, on a toujours été solidaires du peuple kanak pour son indépendance et contre le colonialisme. Et donc on rassemble à la fois des organisations syndicales, partis, associations, etc. Et donc là, nous, on est mobilisés actuellement par rapport aux détenus prisonniers kanak qui ont été envoyés en France, mais on est de façon générale mobilisés contre la répression en Kanaki. Et on a, bon, pour rappeler un peu le contexte... on va parler de détenus qui ont été déportés en 2024 suite au soulèvement qu'il y a pu y avoir en Kanaky. Donc juste pour ceux qui connaissent pas la Kanaky, c'est le nom colonial, c'est la Nouvelle-Calédonie. Voilà. Ouais. Donc juste pour rappel, en fait, il y en a qui pensent que c'est un territoire français, mais pas du tout. En fait, depuis 86, le territoire a été inscrit sur la liste des pays à décoloniser de l'ONU. Et donc depuis, en fait, il y a tout un processus de décolonisation suite donc ce que je disais, les accords de Matignon en 88, puis 98, et il y avait trois référendums prévus d'autodétermination. Donc le premier était en 2018, donc savoir si le peuple kanak, enfin si le peuple colonisé, voulait sa pleine souveraineté ou c'était ça en fait la question. Donc c'était le nom qu'il a emporté en 2018, mais il faut savoir qu'il manquait 22 000 kanaks inscrits sur les listes référendaires. Donc il y a tout un travail de réinscription sur les listes et tout. En 2020, en fait, l'indépendance, ça on le dit pas assez, mais l'indépendance elle s'est jouée qu'à 9 000 voix près. Et puis après en 2021...
Dans un contexte très très particulier, post-Covid.
Non, en fait, 2020 c'était juste
2020,
avant.
2020, pardon. Ouais, pardon.
En fait, le Covid n'était pas encore arrivé en Kanaky.
Okay.
Et donc là, vraiment, la droite loyaliste et l'État colonial ont vraiment pris peur parce que l'indépendance allait se jouer à 9000 voix près, quoi. Et donc, en fait, sur les trois référendums, s'il y a un référendum où c'est oui pour l'indépendance, c'est l'indépendance, on passe pas au troisième. Le troisième référendum, tout le monde s'attendait à ce que ça se passe en 2022. Et puis, en fait, l'État français l'a imposé en 2021, pile au moment où le Covid entre quelques mois avant en Kanaky. Et donc, ça a été imposé, ça a été rejeté par l'ensemble des indépendantistes sur place. Et finalement, ce référendum se passe avec une énorme abstention. Et donc, le peuple kanak considère, et les mouvements indépendantistes considèrent que ce référendum-là, il a été volé et ne s'est pas fait dans les conditions authentiques et de liberté de choix, etc. Et d'ailleurs, il n'est pas reconnu par l'ONU. On rappelle en fait cette période-là parce que depuis, en fait, l'État français essaye de presser en fait une sortie de l'accord de Nouméa et de presser le mouvement indépendantiste et le FLNKS, le Front de Libération Nationale, vers en fait un accord. Avec la France sur la statue du territoire, quoi. Le territoire, il est toujours inscrit sur la liste des pays à décoloniser, donc on est toujours en processus de décolonisation, mais c'est toujours une colonie de peuplement. Il y a toujours des nombreuses vagues de migration, enfin de personnes qui arrivent et qui ont l'emploi directement, etc. Enfin voilà, de métropolitains et tout. Il y a une discrimination raciale sur tout le territoire, vis-à-vis du peuple kanak qui est minorisé. Et donc, en fait, on parle de ce contexte-là, on arrive aux détenus, parce qu'en fait, en 2024, l'État français propose, il y a une proposition de projet de loi de dégel du corps électoral, et le corps électoral, en fait, il était gelé pour préserver, en fait, la place du peuple kanak dans un processus de décolonisation tant qu'il n'y a pas encore le statut du territoire, et notamment pour les provinciales. Et les provinciales, en fait, elles permettent d'élire les élus qui sont au congrès de Nouvelle-Calédonie et après de nommer le gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Donc il y a un gouvernement local, etc. Et il se trouve que là, pour la première fois, c'était un indépendantiste qui était à la tête du gouvernement local. Donc l'idée, c'est aussi dégeler le corps électoral pour reprendre la tête du gouvernement local, etc., par la droite et tout. Dégeler le corps électoral, ça veut dire ouvrir à des personnes qui arrivent de France. Finalement, on dit la métropole, mais en fait, c'est la France et la Kanaky. Parce que du coup, c'est deux pays différents. Et donc d'ouvrir le corps électoral à des personnes qui étaient arrivées récemment. Et donc ça faisait 25 000 électeurs de plus d'un coup. Et donc voilà, le peuple kanak et le mouvement indépendantiste s'est largement mobilisé à partir de fin 2023 avec la création de la CCAT, hein, la cellule de coordination des actions de terrain, pour sensibiliser, pour mobiliser. Il y a eu beaucoup de manifestations contre ce dégel du corps électoral qui passait à la fois au Sénat et à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, le vote était le 13 mai. Il y a eu un gros pic de mobilisation le 18 avril où il y a eu plus de 80 000 personnes mobilisées dans la rue sur tout le territoire, à savoir que les Kanaks sont à peu près 120 000. Donc en fait, il y avait aussi des personnes caldoches et d'autres communautés qui ont manifesté contre le dégel du corps électoral. Et donc, il y avait une volonté un peu de passer en force par l'État français, malgré le refus de tous les courants indépendantistes. Et donc, en fait, le 13 mai, il s'est passé un gros soulèvement en Kanaky. C'était le jour du vote, c'était la dernière ligne droite. Là, après, il y avait le congrès de Versailles qui devait être réuni. Et donc, la veille du 13 mai, donc, toutes les manifestations étaient pacifistes depuis longtemps. Et puis, la veille du 13 mai, en fait, au quartier Mont-Ravel, quartier populaire de Nouméa, principalement Kanak, des flics tirent au flashball sur des jeunes Kanaks qui portaient un drapeau. À partir de là, c'est un peu l'étincelle où il y a une révolte, en fait. Les gens sortent et dénoncent, en fait, ces tirs. Et donc là, il y a une répression qui s'enclenche et qui est absolument énorme, avec des milices coloniales et racistes dans les rues qui font des chasses à l'homme et tout. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais on est à plus de 3000 arrestations en quelques jours. Plus de 3000 arrestations, 13 morts en tout, jusqu'à... Enfin voilà, ça n'a pas été le même soir, mais voilà. De Kanaks qui ont pris des... Pour beaucoup, ça a été par balles réelles. Hein, et qui, des jeunes aussi qui ont pris des balles dans la tête, en fait, à la fois de milices, mais aussi... ces milices-là, elles sont aussi dirigées par des élus locaux. Et donc, ce jour-là, ça a été une explosion, en fait, dans tous les quartiers. Depuis, la Kanaky, en fait, est un peu en suspens. Il y a une catastrophe économique actuellement, mais il y a un chantage de l'État français sur le mouvement indépendantiste. Et donc, en parallèle, en fait, de ce qui se passait à l'extérieur... Il s'est passé aussi donc au camp Est.
Ouais, donc au camp Est, en parallèle, il y a eu une mutinerie, mais peut-être pour revenir aussi sur le contexte de cette justice coloniale qui a en Kanaky, quoi.
Ouais. Je disais tout à l'heure, la discrimination raciale, elle est large sur tout le territoire. L'accès à l'emploi, l'accès aux formations pour les Kanaks, en fait, il y a une discrimination à tous les niveaux. Et la répression, elle est extrêmement forte. Le tribunal sur place, les peines, elles sont énormes. Pour les mêmes faits en France, on n'aurait jamais les mêmes peines, quoi. Donc il y a une vraie justice coloniale sur place. Et là, on l'a vu aussi pendant le soulèvement, hein. C'était vraiment des condamnations à l'appel. Enfin, voilà, c'était vraiment extrêmement fort. Et du coup, le fait qu'il y ait des peines, il y a aussi surpopulation
Oui, il y a aussi l'état de cette tôle camp Est qui est probablement l'une des tôles les pires gérées par la France, quoi. C'est pas une tôle française, parce que c'est pas vraiment là, mais c'est géré par
En fait, c'est l'ancien bagne colonial qui est dans la presqu'île de Nouville. Et qui est collé pas loin à l'hôpital psychiatrique aussi. Ce bagne, en fait, est devenu la prison de Nouméa, et c'est toujours les mêmes murs, et il y a tous les quartiers qui sont rassemblés dans la même prison, à la fois quartier mineur, la centrale, quartier d'arrivant, quartier de détention, enfin bon voilà, quartier des femmes aussi. Et en fait, il y a le quartier, notamment le quartier de détention, et la centrale, c'est dans des containers maritimes que les prisonniers sont entassés. Le taux de surpopulation, il est énorme, il est à plus de 160%. Et c'est une prison qui a déjà été, elle a été condamnée récemment par le tribunal Le Caniste a été condamné en octobre 2024. Le contrôleur des lieux de privation de liberté a plusieurs fois fait des rapports assez graves en fait sur cette prison, et il y a peu de choses qui changent, quoi. Donc voilà, on est déjà dans un contexte qui est très grave, et il y a plus de 80, faut savoir que plus de 95% des détenus sont kanaks. Donc en termes de discrimination, et le reste du pourcentage, ce sont des personnes d'origine océanienne. Donc voilà.
Ouais, c'est une prison qui s'adresse à certaines catégories de la population et clairement pas à l'ensemble de la ouais. Voilà, et notamment bah, sur les meurtres qu'il y a eu pendant les révoltes par des milices et tout ça, il y a eu une répression qui est dérisoire, quoi.
Ouais, on attend toujours vérité justice, hein, d'ailleurs, hein, pour les crimes de sang qu'il y a pu avoir à ce moment-là. Et donc à ce moment-là,
voilà, y a une mutinerie aussi.
Il y a une mutinerie qui se passe, et c'est une des plus, enfin, certains disent que c'est une des plus grandes mutineries qu'il y a eu au camp Est, de l'histoire du camp Est. Un tiers des cellules qui ont cramé. C'est parti de la centrale, et il y a eu une répression qui a été extrêmement féroce, une militarisation aussi, donc il y avait l'armée qui était autour, et puis intervention du RAID, du GIGN, et puis plusieurs unités des ERIS. À ce moment-là, la Kanaky, elle était totalement isolée. Tout était fermé, le port était fermé, l'aéroport, personne ne pouvait y entrer. Et du coup, le camp Est a été complètement assiégé. Et il y a eu une résistance à l'intérieur des détenus, et qui se sont soulevés contre les conditions indignes qui vivaient. Et donc, il y a eu beaucoup de blessés aussi. Faut savoir qu'il y a eu aussi un détenu qui est décédé, Julien, qui est originaire de Canala, et pour qui, en fait, il n'y a pas eu d'autopsie. Il y a eu un article de journal dans Le Monde, et il n'y a toujours pas enquête sur son décès, quoi. Il est mort suite à des coups reçus par les ERIS, quoi, au moment de la mutinerie.
Ça, c'est peut-être un truc à rappeler, c'est-à-dire que bah, nous, tu nous en avais parlé de par les échanges que tu as avec les gens à l'intérieur dès tes premières venues à ce micro et tout. Et donc, bah, ça remonte encore de nouveau l'importance, en fait, de croire les prisonniers à l'intérieur qui rappelaient bien qu'il y avait, un mort. Et donc, ouais. Dans mes souvenirs, le journal Le Monde, ils expliquent qu'ils ont mis plusieurs mois avant de tout recouper, ouais. Tout ça, alors qu'il suffisait de croire les prisonniers, et encore ils les ont pas cru complètement, parce que donc tu me rappelais que dans le journal,
en fait, je pense qu'ils ont peut-être pas eu non plus, ouais, les témoignages de certains qui ont été déportés justement en France, je sais, enfin il y en a certains depuis qui ont pu sortir, il y en a, voilà, mais en tout cas des témoignages de ceux qui étaient dans le même couloir de cellules. Ils savent très bien que c'était le dernier à sortir de la cellule, c'était les tabassages, ils sortaient et ils se faisaient tabasser en règle. Et c'était le dernier qui se protégeait sous le lavabo, quoi. Et en fait, il a pris très cher. Ils ont été mis dans le quartier des femmes, ils ont déplacé les femmes dans les UVF. Et dans le quartier des femmes, ben, il a agonisé pendant plusieurs jours, parce qu'en fait, il n'y a eu aucun secours, l'infirmerie était fermé, etc. Et il y a dans les témoignages qu'on a, par exemple dans l'article du Monde, je crois qu'il parle de 3 jours après qu'il est décédé, mais ça a duré 10 jours. 10 jours sans secours. Et aujourd'hui, il n'y a toujours pas vérité sur ce qui s'est passé, quoi. Et on n'oublie pas, en fait, on n'oublie pas tous les détenus, même ceux avec qui on est en contact, n'oublieront jamais, en fait, Julien, et on parle à chaque fois, quoi. Voilà.
Bah, ça fait partie des, enfin, quand on sait qu'il y a des morts comme ça en détention et qui sont cachés à l'intérieur par la maçonnerie et par l'État, tout le monde sait que ce qui s'est passé, et c'est aussi que après derrière ça a des conséquences, c'est-à-dire qu'en fait ils savent qu'ils ont les mains libres pour la fois d'après. Et donc à la suite de cette révolte,
à la suite dans la foulée, nous, fin mai début juin, on commence à avoir des échos comme quoi il y a des déportations de détenus. Donc nous, on n'arrive pas à vérifier l'information, on n'arrive pas à savoir. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Il y a un député guyanais qui pose une question au président de la commission des lois là-dessus. C'est une réponse négative. On ne sait pas s'ils sont déportés sur Tahiti, ailleurs. On ne sait pas combien ils sont, mais on a des échos, quoi. On a des échos et on se dit que c'est des fuites d'internes, quoi. Et c'est seulement mi-juin, vers le 20 juin, que là, on a une première liste de détenus. Et en fait, oui, il y a eu des déportations qui ont eu lieu. C'est des déportations massives. Les personnes, elles n'ont pas pu avertir leur famille. Du jour au lendemain, on leur dit, vous allez partir sur, en France, quoi. Dans quelques
Kendrick,
heures.
Kendrick va,
que Hendrix,
va bien l'expliquer.
On a on a un témoignage là d'une des personnes qui a été déportée, qui est libre maintenant, mais qui fait partie des détenus qui ont été déportés. Peut-être qu'on reprend un petit peu après ou...
Non, mais on peut ouais. On peut continuer. C'était juste ouais. pour faire écho. Mais donc ouais, donc ils ont été transférés, tous envoyés à Réo.
Il y en a qui sont arrivés sur Réo, il y en a qui sont arrivés directement de Charles de Gaulle, directement dans des centres pénitentiaires. Il y a eu plusieurs vagues. La première vague, c'était le 8 juin, deuxième vague le 22 juin, troisième vague le 10 juillet. Donc ça, c'est les grosses vagues de déportation. Et puis après, en octobre, il y en a eu encore une, en janvier suivant. Et puis après, c'est au compte-gouttes. Et jusqu'à dernièrement, là, on sait qu'il y a deux détenus qui sont arrivés le 2 décembre. On les a directement, on a été en contact avec eux et tout ça. Mais voilà, et ces déportations-là, du coup, ils étaient menottés pendant tout le vol. Hein. Il faut savoir que la Kanaky, c'est à l'autre bout du monde. Hein. Donc du coup, c'est plus de 20 heures de vol. Ils ne pouvaient pas se parler et aucune intimité hein, pour aller aux toilettes ou quoi que ce soit. Ils n'ont pas pu dire au revoir à leur famille. Il y en a certains, ils ne savaient pas où ils allaient. Quoi. Et puis, ce qui s'est passé, c'est où tu signes un document pour accepter de la déportation et tu as le droit d'aller chercher quelques affaires, ou alors tu signes pas, mais on va te mettre dans une cellule d'attente et dans tous les cas, tu vas être déporté. Quoi. Et personne n'a pu avertir la famille. Il y a beaucoup de proches qui ont cherché et qui ne savaient pas que leurs proches étaient déportés, qui l'ont su bien après. Quoi.
Et peut-être pour préciser, en fait, ce terme déporté, il est vraiment extrêmement important ouais. D'un point de vue juridique. Parce qu'en fait, donc vu que la France, enfin que c'est pas la France en fait.
Oui, parce que c'est comme c'est un territoire non autonome, c'est un passage de frontière internationale quand on envoie, quand il y a une personne qui part de Kanaky vers la France. La France, elle est que puissance administrante sur le territoire et c'est tout quoi. Et donc un transfert d'une tôle en Kanaky vers une tôle en France, en fait, c'est pas juste un transfert interne quoi. Donc ils le font comme ça au niveau de l'État, mais il y a une violation du droit international parce que c'est un passage de frontière internationale. Et du coup, d'ailleurs, ils ont fait des passeports à la va-vite, hein, des passeports d'urgence, sans demander aux détenus s'ils étaient OK ou pas. Donc déjà, ça, c'est illégal. Oui, c'est une violation du droit international là-dessus. Violation du droit de la vie privée familiale des détenus, hein, puisque ils se retrouvent à 17 000 km de leur famille. Et puis, bien sûr, sur les conditions inhumaines de déportation, quoi. La France, elle est puissance administrante sur le territoire, elle a que les compétences régaliennes, il y a un gouvernement local, et donc elle a aussi la justice, la police et le pénitentiaire. Et au niveau pénitentiaire, du coup, par exemple, sur le Conseil national d'évaluation, là, le CNE, là, comité,
je sais plus.
Le CNE, là, pour les évaluations sur les longues peines, là, au niveau psy, etc., en fait, il n'y en a pas sur le territoire. Du coup, ils se permettent de déporter des gens. Alors que faire un déplacement forcé sans la volonté de la personne, c'est une déportation au niveau juridique. Quoi.
Ouais. Mais c'est pour ça qu'ils ont forcé les gens à signer ces papiers.
Oui, alors que même ces papiers-là, pour les retrouver...
Ils n'ont pas de valeur. On va écouter Kendrix qui témoigne de tout ça. Alors peut-être pour repréciser
c'est un témoignage qu'on avait reçu... au moment d'un meeting qu'on a organisé le 6 novembre dernier, le collectif Solidarité Kanaky, avec les personnes, il y a aussi des déportés, prisonniers de la CCAT, dont le président du FLNKS, qui a été président une fois détenu, mais actuellement il est président du FLNKS. Donc c'est des militants politiques indépendantistes qui ont été arrêtés au moment aussi en juin 2024 et qui eux aussi avaient été déportés, mais dans des vols différents. Par un avion militaire, mais eux, ils étaient passés par les États-Unis. À Hawaï, les États-Unis, ils étaient arrivés en France et qui, eux, sont en instruction et ont une affaire en cours. Depuis, ils ont été libérés en appel en juin dernier. Et donc, il y a eu un meeting suite au fait qu'il y a eu la levée des contraintes sur leur retour au pays, etc. Il y a eu un meeting le 6 novembre sur la situation en Kanaky, la situation politique, leur situation à eux, mais aussi sur la situation des autres détenus kanak déportés.
Ouais, peut-être pour faire une toute petite parenthèse avant de passer le son, c'est que vous, à Solidarité Kanaky, vous n'avez pas fait de distinction entre les types de prisonniers qui avaient été déportés en France. Et ça a été des trucs que vous avez porté t'en parlais dans les émissions précédentes, mais que vous avez porté vraiment de manière importante.
En fait, juste, je précise ça avant qu'on lance le... Du coup, en fait, un des détenus qui a été libéré nous a envoyé un témoignage audio au moment de ce meeting qu'on avait diffusé. Et juste pour finir, en fait, sur la non-distinction... Enfin, on n'a pas distingué, en fait, les détenus, on considère que, vu cette déportation, dans tous les cas, ils sont tous victimes du système colonial, quoi. Et que nous, on milite sur une base anticolonialiste, antiraciste, anticapitaliste aussi, mais de fait, pour l'indépendance kanak. Et là, en fait, on se retrouve avec des détenus, mais quel que soit le pourquoi ils ont été détenus, quoi. On nous a demandé, oui, mais il faut soutenir les prisonniers politiques, là, c'est des prisonniers de droit commun, etc. En fait, pour nous, une déportation, c'est politique, quoi. Et puis, en plus, là-dedans, il y avait aussi des mutins dans l'ensemble des personnes qui étaient là. Donc, nous, on ne se mêle pas de savoir pourquoi ils ont été détenus. On soutient tout le monde et on revendique le rapatriement de tous ceux qui le souhaitent, quoi.
On écoute Kendrix.
Bonjour à tous ceux qui sont présents ce soir au meeting. Voilà, j'ai rédigé en bref ce que nous avons vécu les détenus et moi pendant la période du 13 mai jusqu'à présent, pour oublier en fait aucun point à partager. Voilà, moi c'est Hendrix, je fais partie des déportés de 2024, précisément du deuxième convoi. Je devais être présent ce soir pour le meeting, pour partager un peu tout ce qu'on a vécu, mais finalement je ne peux pas être présent pour des raisons personnelles. C'est pour ça que je fais ce vocal, cette vidéo, pour quand même faire passer le message malgré l'empêchement. Parce qu'il faut savoir qu'en Kanaky Nouvelle-Calédonie, quand même, on vit dans une grande injustice qui est en gros abusive. Nous avons vécu des moments que jamais nous pourrions oublier, personnellement et globalement. Je pense surtout aux familles qui ont perdu des êtres chers lors des combats pour la lutte du pays, pour l'indépendance, pour ceux qui ont perdu des êtres chers du côté de la prison. La prison, vous savez, c'est pour tout le monde, hein. Dans le sens où là-bas, tu trouves toute ethnie, toute tranche d'âge. Voilà. Tout le monde peut y passer, quoi. Lorsque j'étais en prison, j'ai passé des bons moments comme des mauvais moments. C'est la vie, quoi. Quand il y a eu la lutte en 2024, en prison, il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses. Un frère kanak, originaire de Canala, est décédé à cause des forces de l'ordre, les IRIS, suite à un tabassage. Les IRIS, eux, ils arrivaient des soirs où ils venaient, ils ouvraient la porte des détenus. Et ils sortaient tous les détenus. Ils les emmenaient dans la cour de promenade et ils les astiquaient comme ça. Lors de la mutinerie aussi, les IRIS ont fait ramper toute une case dans le couloir sur des débris de porcelaine, des toilettes cassées, des verres cassés. Et beaucoup ont eu des petites blessures qui se sont par la suite infectées. Parce que à ce moment-là, il n'y avait plus de... C'était plus ça, les infirmeries et tout. Du coup, quand nous étions là-bas pendant cette période-là, on était mal nourris. Les barquettes contenaient des portions alimentaires pour des enfants. Quand nous avions fini de manger, 2 heures après, on avait encore faim. Les desserts, c'était soit 11h30, soit 16h30. C'était une fois dans la journée, quoi. Plus de pain pendant une longue période. Les promenades se faisaient une fois par jour. Ils sont passés de 1h30 à seulement 30 minutes chaque jour et une fois par journée. À chaque sortie de cellule, ils te fouillaient exagéré. Il faut savoir aussi qu'en détention, au pays Kanaky Nouvelle-Calédonie, la prison est comme une pharmacie. Mais attention, pas n'importe laquelle. Quand tu demandes à consulter un dentiste, un médecin, un psychologue, un infirmier, il est dur, voire même quasiment impossible de voir, d'obtenir un rendez-vous. Mais quand il s'agit de rendez-vous pour le psychiatre, le rendez-vous se fait en deux-deux, pour en fait procurer des cachetons aux détenus, des cachets de Marquois, Seresta, Tertion, beaucoup d'autres encore. Et cela, ça joue beaucoup sur le moral et le mental de tous ces gens qui, entre qui entre en détention, beaucoup sortent mais n'ont plus la tête sur les épaules, complètement ailleurs. Il faut savoir aussi que c'est comme ça depuis, hein, depuis jusqu'à présent. Avant notre déportation, nous avons été maltraités par des gardiens qui, dans la nuit du 16 au 17 mai, nous ont sortis de cellules armés d'un fusil à pompe, nous ont neutralisés par terre un par un, en nous mettant des serflex serrés au max et emmenés en cellule d'attente. Ils ont effectué une fouille accompagnée de coups de poing, de coups de pied, de coups de genou. Ils nous ont laissés torse nu avec la clim allumée, où il y avait de l'urine fermentée, couleur marron, l'odeur était même pas respirable. Toujours avec les serflex serrés au max, hein, de 1h du matin jusqu'à 8h. La journée, ils nous ont emmenés dans une autre salle encore plus petite, juste à côté, pas loin, où il y avait toujours la pisse. Et on est resté de 8h jusqu'à 19h. On a mangé à 14h, toujours au même endroit. La nourriture a été servie par Chef Martin. Il se sentait vraiment pas responsable du tout de ce qu'on traversait. On lui avait demandé si on pouvait manger dans une autre pièce et il a refusé. Il a dit que c'est pas son problème. Il a alors posé les repas à même le sol, pas loin de les urines, hein, pas loin des urines. Du coup, nous nous sommes alors débrouillés pour réussir à récupérer puis à manger le repas, quoi. On n'avait pas le choix. Un mois après, lors de notre déportation, c'était ouais, un mois après, on était forcés à partir si on refusait de signer les RSI. En fait, ils étaient là pour la sécurité de Chef Martin. Du coup, ils étaient là. Leur devoir, c'était si on refuse, ils nous neutralisent et nous emmènent en cellule d'attente pour attendre le vol pour la France. Le chantage de Chef Martin, c'était soit on accepte de signer et il nous laisse aller préparer nos affaires, avec interdiction de prévenir qui que ce soit de la famille, amis, proches, etc., les copains, copines, interdiction. De toute façon, les cabines téléphoniques aussi, ils étaient coupées, exprès pour ces jours-là. Tous les jours où il y a des convois, c'est couper les cabines. Tout s'est passé comme ils avaient prévu, en fait. Lors de mon arrivée en France, j'ai vu que la détention, la vie sociale n'est même pas la même. Rien à voir. La détention, franchement, rien à dire. Et à l'extérieur, de même. Je me demande pourquoi nous sommes en Kanaky-Nouvelle-Calédonie, soi-disant française, alors qu'il n'y a pas de, y a pas d'aide, pas de RSA, pas d'APL et beaucoup d'autres aides encore qu'il n'y a pas. Les aides sociaux et tout. C'est un truc à en parler, franchement. Bref, une fois sorti de prison, j'ai eu une interdiction de retourner en Kanaky-Nouvelle-Calédonie pendant 2 ans. Et là, je suis encore à la première année. Et d'ailleurs, ça va faire 1 an jour pour jour, après-demain, que je suis dehors. Et j'ai demandé si je pouvais retourner au pays, ils m'ont dit non. Ils m'ont dit non. En détention, mon SPIP me disait que si je voulais retourner au pays, le billet est à la charge de ma famille. Choqué, j'ai ensuite refusé de retourner. En leur demandant pourquoi c'est ainsi, ils m'ont répondu que c'est comme ça, ils peuvent rien faire. Du coup, je suis sorti et voilà, malgré tout, j'ai réussi à me poser, avoir un logement, etc., etc. Maintenant, ça y est, là, je suis bien, j'ai trouvé un emploi, je travaille, j'ai un logement, et j'espère que tout changera un jour au niveau de la Nouvelle-Calédonie, la vie en détention, tout ce qui se passe actuellement, la vie chère et tout. Et j'encourage aussi tous ceux qui vont passer par ce chemin, ce chemin-là, à ne rien lâcher, mais à forcer, des fois, il faut forcer un peu le destin. Et voilà, c'était juste pour faire passer ce message-là, ce message que beaucoup de personnes ne le savent pas, tout ce qu'on a vécu et tout. Et je tiens à remercier tous ceux qui nous soutiennent.
Oui, donc c'était donc le témoignage de Kendricks, donc qui est sorti des tôles de France, voilà, après avoir été déporté. Et donc il nous racontait ça. Il y avait deux trois trucs sur lesquels il nous semblait un petit peu utile de revenir. Peut-être tout d'abord sur les petites blessures.
Ouais, bon, il dit petites blessures parce que bon, voilà, il exagère pas les trucs et tout, mais bon, faut savoir quand même qu'il y a quand même pas mal de détenus qui sont arrivés avec des blessures assez graves, des fractures, fracture du poignet, fracture du tibia, déplacement de la mâchoire. Enfin voilà, nous on a des témoignages aussi qui ont été. Faut savoir aussi qu'il y en a qui ont été déportés avec. Il y a eu des menaces d'être mis sous sédatif. Et il y en a qui ont été piqués, mis sous sédatif, quoi. Voilà. Quand il dit astiquer, ça veut dire se faire tabasser. Je voulais juste préciser, si jamais vous ne comprenez pas au niveau du terme, là. Et voilà, les tabassages en règle, à un moment donné, sur toute une période, là, il ne le dit pas, mais sur un autre témoignage, il avait pu nous le dire. Puis d'autres disent la même chose. Hein. Ça a pu durer sur plusieurs semaines ou tous les soirs. En fait, ils ouvraient les cellules, ils rassemblaient tous les détenus dans la cour et c'était tabassage de tout le monde, quoi. Voilà, ça s'est passé au camp Est et on ne sait pas la situation encore aujourd'hui, mais la militarisation, elle continue, quoi. Et donc, ouais, les actes qu'ils décrivent, hein, c'est bien des actes de torture et avec des traitements inhumains et tout, quoi. Donc, voilà. Et juste précision, il dit, malgré qu'elle soit disant française, le territoire reste occupé par la France, mais justement, la Kanakine n'est pas française et voilà.
Et puis peut-être sur le truc des différences des conditions de détention, je pense que ça montre aussi vraiment quel est l'état des conditions à Caen Est, quoi, qui est vraiment affreux. Mais c'est d'ailleurs le cas de toutes les prisons hors métropole gérées par la France. Ouais. Voilà, mais c'est à chaque fois des conditions absolument hallucinantes, quoi. Voilà. On va revenir dans la suite de l'émission un peu sur la suite de ça, comment ça se passe quand on arrive en France, le taf que vous avez fait d'essayer de mettre un maximum de solidarité et tout. On va passer un petit coup de musique, on va commencer tout de suite après par la mort de Frédéric Groschin, et après derrière on reviendra sur la suite de tout ça.
Hommage, hommage aux martyrs de la Kanaky. Hommage, hommage aux martyrs de la Kanaky. Hommage, hommage aux martyrs de la Kanaky. Hommage. De la Kanaky. Tête de liste Ataï Mekwindo, Pierre de Claire, toi notre frère. Tête de liste Ataï Mekwindo, Pierre de Claire, toi notre frère. Hommage. Martyr de la Kanaky. Hommage. Hommage au martyr de la Kanaky. Hommage. Hommage au martyr de la Kanaky. 12 janvier à Tony, hello à Machoro. Sans sur Kanaky. Hommage. Hommage au martyr de la 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 Kanaky. Kanaky. Hommage. Hommage. Hommage au martyr de la Kanaky.
Omar.
Omar, tu es de la Kanaki.
Omar.
Omar, tu es de la Kanaki. A ouvert, Jean-Marie. Mais y'a où est né. Jubeli, Wea. L'innocent. A ouvert, Jean-Marie. Mais y'a où est né. Jubeli, Wea. L'innocent. De la Kanaki.
Hommage.
Hommage. Au martyr 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 de la Kanaki.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes toujours en direct de l'émission L'Envolée sur fréquence Paris Pluriel. Et donc, on rappelle très rapidement les contacts pour cette dernière partie d'émission. On peut nous appeler en direct, mais c'est un peu tard, au 01 40 05 06 10. Sur le téléphone toute la semaine, le répondeur ou les applis au 07 53 10 31 95. Par mail à contact@l'envolée.net. Par courrier à fpp-l'envolée, 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris, et sur Insta à l'envolée-journal. Et donc, on est toujours avec Julie de Solidarité Kanaki pour parler de la déportation des prisonniers kanak qui continue et de la mort d'un prisonnier kanak, Frédéric Groschin.
Ouais, donc qui est décédé à Varennes-le-Grand. Est-ce que tu veux déjà un peu tout d'abord nous expliquer comment vous avez été
Ouais. Alors Frédéric, déjà une profonde pensée hein, aux familles, hein, aux proches, à tous les détenus qui le connaissaient aussi, à Frédéric Groschin, qui est un détenu kanak qui a perdu la vie, en tout cas qui a été retrouvé mort le 6 février dernier dans sa cellule à Varennes-le-Grand. Donc lui, il faisait partie des détenus qui avaient été déportés dans la vague de juin, de fin juin 2024, du 22. Et il était arrivé à Varennes-le-Grand avec deux autres détenus. Et donc Frédéric, il est mort à l'âge de 31 ans. Il était originaire de Ponérimène, donc de la Grande Terre, hein, en Kanaki. Et nous, en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, on tient les permanences du lundi tous les lundis, en fait, depuis maintenant plus d'un an et demi, au CICP à Paris, où on reçoit les courriers des détenus, on y répond. Et en fait, à la permanence, il y a aussi la cousine de Frédéric qui fait la perme avec nous depuis le début. Et en fait, pendant la perme, sa cousine reçoit un appel de l'avocate de Frédéric. Et donc, elle s'est absentée, et puis elle revient, et puis elle nous apprend la nouvelle, en fait, en pleine perme, quoi. Et donc, on était le 10 février, le 9 février. Il se trouve qu'en fait, le 6 février, l'avocate avait eu des appels de la prison, mais elle était en audience. Et elle n'avait pas eu de message et tout. Et donc, elle a re-eu la prison seulement le lundi. Et donc, c'est pour ça que le lundi, elle a appris la nouvelle. Il faut savoir qu'en fait, le même jour... ce lundi-là, le frère de Frédéric, qui était arrivé de Kanaky à peine une dizaine de jours avant, même pas deux semaines, il est arrivé de Kanaky pour s'installer en France, pas très loin hein, de Varennes-le-Grand. Et en fait, c'est le jour où, ce même lundi-là, où il appelle la prison de Varennes-le-Grand pour demander un permis de visite quoi, pour son frère. Et ben là, il a la réponse du SPIP qui lui dit en fait, votre frère, il est mort. Quoi. Il est décédé il y a quelques jours. Donc il a été retrouvé allongé dans sa cellule avec un peu de sang à côté quoi. Mais il se trouve que il y a eu une autopsie qui a mis du temps. L'autopsie, elle a révélé en fait, c'est sorti dans la presse, hein, donc je peux me permettre d'en parler. L'autopsie révèle quand même une infection pulmonaire à la tuberculose, donc ce qui est quand même assez grave, quoi. La famille n'était pas du tout au courant de ça. Et se demande vraiment comment ils ont pu passer à côté de quelque chose comme ça, quoi, en détention. Sachant qu'il avait pu avoir des contacts avec l'infirmerie ou les services médicaux pendant l'année. En tout cas, voilà, quoi. Nous, on n'avait aucune information là-dessus. Et du coup, voilà, donc il y a une enquête qui a été ouverte. La famille et l'avocate comptent vraiment faire la lumière sur tout ce qui s'est passé et attendent d'avoir accès à l'ensemble des documents le concernant. Il y a eu beaucoup de questionnements sur le possible rapatriement ou pas de Frédéric, et puis il y a la charge de qui, quoi. Il y a eu... je sais que beaucoup de détenus qui ont appris la nouvelle en détention ont été... ils ont appris ça derrière les barreaux, quoi. Ça a été dur, ils ont été déportés ensemble, quoi. Et donc, bon, ça semble en bonne voie que le rapatriement se fasse dans quelques temps, et ça semble en bonne voie que ce soit pris en charge par l'État, qu'il soit rapatrié, quoi. Mais pour le moment, je peux pas encore dire que c'est confirmé, parce que la confirmation, elle est pas là, mais c'est en bonne voie de la part de l'avocate, les informations qu'on a, quoi. Donc,
voilà. Il y a une cagnotte qui a été mise en place spécialement pour...
Alors, il y a une cagnotte qui avait été lancée depuis le pays. Ouais. Par des personnes de sa famille qui est en ligne. Là, je ne l'ai pas en tête là, mais
on
peut-être
la remettra,
à la fin
on
de la...
Voilà. On les mettra dans le voilà. Fil de l'émission sur le site.
Et voilà, nous on a fait une soirée. En fait, il se trouvait qu'il y avait un concert en soutien aux détenus déportés. Qui était prévu depuis plusieurs mois, et ça tombait une semaine après. On a dédié cette soirée à Frédéric, on lui a fait un hommage ce soir-là, et il y avait d'ailleurs des anciens détenus qui sont toujours en France, qui ont été libérés en France, Kanak, qui ont été déportés en même temps, qui sont venus, qui ont pris la parole. Et du coup, on a parlé de la situation des autres détenus, et donc il y a une bonne partie des bénéfices de la soirée qu'on a dédié pour la famille, quoi. Et voilà. Et donc, je pense que c'est important de... Ouais, tu voulais dire quelque chose?
Non, deux trucs. Le premier, peut-être, mais ça, Inès, tu pourras peut-être plus développer, mais en fait, normalement, le protocole sur la tuberculose, il faudrait qu'il y ait tout le monde qui soit à l'isolement et super suivi.
Ouais, d'habitude, à l'extérieur, en tout cas, les protocoles, quand quelqu'un a la tuberculose, c'est qu'ils retracent tous les cas contacts, ils font faire des radios à tout le monde, plein de prises de sang. Dès qu'il y a quelqu'un qui est positif, il est... isolé. Et je suis désolée, en fait, quand tu craches du sang, il faut pas faire croire que ça s'était pas vu. C'est quand même un cas alarmant, c'est pas anodin de cracher du sang. On fait pas ça tous les 4 matins, donc là on est sur vraiment un cas mais typique de refus de soins et de négligence en prison, qui a des conséquences vraiment tragiques, quoi.
Oui, mais justement, l'avocate elle a répondu à la presse, y a plusieurs articles qui sont sortis. Et justement, elle met en évidence la négligence de l'État, de l'administration pénitentiaire là-dessus, et de voir pour engager une responsabilité de l'État sur la mort de Frédéric. En fait, ça rappelle aussi, je voudrais quand même qu'on le dise, ça rappelle que, en fait, que ce soit en Kanaky ou ici, il y a la situation des détenus de façon générale et des soins des détenus de façon générale, mais d'autant plus difficile pour des détenus qui sont loin de leur famille, qui ont été arrachés de leur pays et qui sont dans une situation coloniale, quoi. Et l'ordre colonial tue, mais l'isolement et la prison aussi tuent. Et c'est une véritable survie en détention psychologique, physique, pour tous les détenus de façon générale. Et encore plus, en fait, en territoire colonisé, quoi. Que ce soit au camp Est ou même par rapport aux moyens que les détenus kanak déportés ici en France, les difficultés, on va en parler, mais elles sont vraiment multiples. Le fait de ne pas pouvoir contacter sa famille, le fait, il pouvait contacter sa famille, c'était pas la question, mais être en contact par téléphone et de voir la personne de visu, ça n'a rien à voir, quoi. Et ouais.
Puis c'est quelque chose qu'on rappelle aussi souvent dans plein de situations, que que c'est souvent tes co-détenus qui peuvent te sauver la vie quand tu as un pépin, un problème. Et on sait aussi que les prisonniers kanaks ont été beaucoup plus isolés parce qu'ils ont été brutalement arrachés à l'endroit où il y avait tous leurs liens, etc. Et donc là aussi, c'est des formes d'isolement qui ont beaucoup joué dans tout ça. Et peut-être, moi, un autre truc auquel ça m'a fait penser, c'est on avait publié une lettre il y a un an et demi, je crois, d'un prisonnier kanak qui expliquait les conditions de sa déportation, qu'il n'avait même pas pu avoir des vêtements chauds et qu'il arrivait en France sans rien. Donc il y a aussi des questions matérielles qui jouent beaucoup dans ces conditions-là. C'est pas anodin que ça arrive en plein hiver. Que les solidarités, elles comptent à la fois dans le fait d'être soutenu par des co-détenus et ça compte aussi matériellement quand on arrive sans rien avec des vêtements qui sont ceux du climat de la Kanaky et certainement pas ceux du climat de la France l'hiver, ça aide pas non plus à résister à une maladie aussi grave que la tuberculose, quoi.
Ouais, je voulais dire que du coup c'est aussi l'objet de notre solidarité qu'on mène ici. Hein. Déjà de pouvoir retrouver l'ensemble des détenus. Je vais pas rentrer dans les détails parce qu'il reste peu de temps, mais on est aujourd'hui à plus de 90 détenus kanaks que l'on a recensés, qui ont été déportés après 2024 et pour une douzaine avant 2024, mais qui vivent la même situation d'isolement. Donc nous on apporte à la fois un soutien matériel. Financier, mais aussi pour du linge, etc. Et puis aussi juridique, quoi. Je voulais juste qu'on n'oublie pas de parler de la question des dossiers de la mutinerie avant qu'on termine. Au moment de la mutinerie, au Canada, il y a eu deux moments, en fait. C'est une mutinerie qui a duré plusieurs jours, mais il y a eu deux soirs vraiment. Il y a parmi les détenus qui ont été déportés en France, il y a 5 personnes qui étaient en instruction pour cette mutinerie. Donc je voudrais dire que on n'oublie pas et que nous, le collectif Solidarité Kanaky, on se mobilise aussi pour eux et pour la levée des poursuites pour l'ensemble des mutins, parce qu'il y en a qui sont aussi au camp Est, qui sont encore au camp Est. Il y en a qui ont été libérés, mais il y a des poursuites qui sont toujours en cours. Et je voulais dire qu'il y a eu beaucoup d'auditions. En fait, on se rend compte qu'il y a eu plusieurs auditions. En dehors de ceux qui sont en instruction, il y a des détenus qui ont été auditionnés et il y a des audiences qui arrivent et qui sont un peu éclatées en France. Donc l'ensemble des détenus, ils sont éclatés sur une quarantaine de prisons. Donc là, on ne sait pas exactement qui a été auditionné ou pas. Et en fait, c'est assez inquiétant, l'atomisation du traitement du dossier de la mutinerie. Et nous, on sera là, en tout cas, et on va essayer de se mobiliser et de ne pas les oublier, quoi.
Ouais, ça, c'est un truc vraiment très important. En fait, ils sont en train de faire exactement le même truc qu'ils avaient fait pendant Userche, la révolte qu'il y avait eu en Userche, où en fait, c'est à peu près des trucs similaires, où 2/3 de la tôle avait été défoncée. Et donc, ils ont éclaté, et donc, ils jugeaient à chaque fois 3-4 personnes à des endroits proches de la tôle et tout. Et donc, ça permet d'éviter d'avoir un grand procès qui serait aussi un procès médiatique sur lequel on parlerait en fait de soit la gestion coloniale de la prison à Caen Est ou ça aurait été la pandémie pendant le Covid. Donc ça, c'est vraiment un truc extrêmement important. Et aussi l'autre truc qu'on peut conseiller, c'est que probablement que vont être rendus publics au maximum en fonction de ce que souhaitent les gens les procès, et c'est important de s'y rendre. Il faut documenter, raconter ce qui se passe aussi, parce qu'en fait, la justice, ça fait partie des rouages coloniaux qui s'abattent sur les Kanaks. Donc ça, je pense que c'est vraiment un truc essentiel et qu'il faut le documenter. Parce qu'en fait, sinon, le fait d'atomiser, ça leur permet que personne ne soit vraiment au courant. Et en tout cas, on souhaite vraiment plein de force aux gens qui, en plus, à l'intérieur, se reprennent des nouvelles poursuites. Dans un contexte, et on va peut-être terminer très rapidement là-dessus, sur le fait que la sortie, elle est vraiment elle pose énormément de questions, et notamment sur la question du rapatriement. Donc il y a plein de difficultés sur la question de l'aménagement de peine, et donc on parlait tout à l'heure de l'isolement et tout ça, le fait d'être isolé. Ça fait que c'est vachement plus compliqué de trouver des promesses de travail, de trouver des trucs et tout ça qui font que les aménagements de peine sont encore plus compliqués. Et aussi et surtout la question du rapatriement. Et peut-être terminer sur cette histoire qui est quand même effarante, mais qui en dit bien sur la logique de l'État colonial, sur deux prisonniers. Tu veux nous raconter ?
Ouais, je vais le raconter rapidement. Juste sur la mutinerie, il y a une première audience qui a lieu le 5 mars, la semaine prochaine, d'un détenu qui a été auditionné et qui est poursuivi, et du coup qui a une audience là isolée, et du coup c'est à Sarreguemines, et bien sûr on soutient et on suit de près. Il y en a une prochaine le 26 mars, et on va essayer de compiler. Voilà, mais on donnera des rendez-vous aussi de mobilisation pour les soutenir. Oui, la question du retour, en fait, nous, on revendique le retour à la charge de l'État. Beaucoup sont en fin de peine ou en aménagement. Ils se retrouvent à... tu es en liberté conditionnelle, si tu veux être libéré ici. Si tu veux être libéré en Kanaky, est-ce que tu as de quoi payer ton billet, ce que disait Hendrix tout à l'heure. Et donc, on se retrouve avec plusieurs situations comme ça, de détenus qui sortent et qui se retrouvent bloqués en France. Et pareil, le fait d'être bloqué ici, de chercher une formation, de chercher un emploi, etc., c'est pas forcément évident, sachant qu'en plus, ils ont des grosses difficultés avec la sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est la sécu en Kanaky, c'est pas du tout la même qu'ici. Ça met des semaines, des mois avant d'avoir le bon numéro de sécu, donc pouvoir avoir un travail déclaré, etc. Et donc, on est aussi là-dessus et on essaye de voir un peu dans le réseau qu'on a de contacts pour voir s'il n'y a pas des plans justement de à la fois de chantier insertion ou d'emploi ou de stage ou promesses d'embauche, etc. On était en lien aussi avec un des détenus de la CCAT qui s'appelle Guillaume Vama, qui est de l'association TradTech et qui, lui, bosse beaucoup sur les questions d'agroforesterie et de projets en Kanaky. Et du coup, qui a aussi transmis ses contacts ici pour voir s'il n'y a pas des plans d'accueil au niveau des détenus, à la fois sur le travail de la terre, mais aussi, par exemple, une école de construction maritime en bois. Donc ça, c'est des choses qu'on est en train de construire, qui ne sont pas encore bien établies. Mais en fait, on fait un peu le boulot du SPIP qui ne foute rien, en fait. Et juste pour vous dire, il y a des détenus qui ont tout bien, ils ont rien dans leur dossier qui fait qu'au niveau d'une permission, ils peuvent avoir un refus. Mais ils se tapent toujours des refus à répétition. C'est un truc, mais c'est ouf, quoi. Et y en a un, je vais donner l'exemple, il se reconnaîtra si jamais il écoute à la radio. Mais voilà, il y en a un, il avait un rendez-vous avec une mission locale, etc., qu'il avait trouvé de l'emploi, il voulait faire tatoueur, et donc de l'emploi au niveau de salon de tatouage, etc. Tout était OK, c'est quelqu'un qui dessine beaucoup et tout. Et ben voilà, le SPIP, il dit non, parce que ça fait trop gang, quoi. Donc c'est vraiment un rapport à la fois raciste et colonial, sur toutes leurs possibilités. Je sais qu'il ne reste pas beaucoup de temps, mais en tout cas, juste avant de terminer, je voulais juste dire que la solidarité, sur l'ensemble des détenus, les plus 80 détenus, en fait, il y a toujours du besoin. Et juste vous dire qu'il y a une cagnotte en ligne qui sert justement à tout ce soutien. Vous mettez sur Hello Asso, Justice et Liberté pour Kanaky, et vous allez tomber sur la cagnotte en ligne et voilà, il y a besoin de thunes.
Et carrément. Et puis, on n'aura pas eu le temps de tout décrire, mais il y a eu aussi une décision de justice qui autorisait un rapatriement en Kanaky.
Ah oui,
Kanaky,
je voulais le dire. Bon.
Et qui autorisait le rapatriement.
En fait, ouais, juste en une phrase, pour dire que malgré tout le boulot des avocats qui sont avec nous, sur le transfert au pays, sur le retour au pays, il y a des dossiers qui ont été gagnés. Donc, deux détenus pour qui le dossier avait été gagné pour un retour avec une affectation à Koné, donc la prison au nord, et une affectation au camp Est. Et depuis un an, en fait, ces détenus sont bloqués. Donc, en fait, pour nous, c'est pas qu'une question de travail juridique et de dossier juridique, mais c'est vraiment un rapport de force politique à construire. Mmh. Et eux, ils ont été envoyés à Charles de Gaulle pour prendre un avion, ils devaient rentrer. Finalement, ça ne s'est pas passé. Et ils sont toujours bloqués à Réau. Et ça fait depuis fin novembre. Et malgré les recours référés liberté, etc., tout a été rejeté. Et que nous, là, en fait, on compte lancer une mobilisation avec une tribune unitaire et voilà, faire des interpellations aussi parlementaires et que ça puisse bouger et que cette situation, elle est inadmissible, quoi. Voilà.
Mais c'est là vraiment où on voit que le droit, c'est si on fait confiance aux gens pour les appliquer. On va terminer cette émission. Je voulais la terminer en la dédiant à Philippe qui nous a quittés cette semaine. Philippe, on s'était rencontré autour de la commission anticarcérale de Nuit Debout et c'était dans une période où il était en train d'écrire une pièce de théâtre avec Christine Ribailly qui était enfermée. Il entretenait des correspondances avec Christine, avec Philippe Lallouel et puis une autre personne qui s'appelait Émilie. Et à partir de ces différents textes, il a coécrit la pièce de théâtre avec Christine qui était enfermée et lui. Ils ont monté cette pièce de théâtre. Elle a été jouée pour la première fois à La Parole Errante. Où Christine a été libérée à ce moment-là. C'était un peu un truc qu'on n'attendait pas. Et après, tous les deux, ils ont fait tourner cette pièce près de plus de 70 fois. Où le chapeau à la fin servait pour des mandats pour des gens à l'intérieur. Ça a aussi permis de payer des billets d'avion pour des proches de Fabrice pour qu'ils puissent venir le voir depuis la Guadeloupe. Philippe, il n'aura pas passé énormément de temps dans les luttes anticarcérales, mais en tout cas il aura fait un petit bout de chemin et il aura filer un coup de main à deux trois personnes à l'intérieur à travers son taf qui était d'être acteur. On va passer au coucou.
Bah ouais, on fait un gros coucou à Kémy, Aurélie, Fabrice, Blanche, BN, Zouzou, Redouane, Mauben, Nicolas, Vivi, à tous les prisonniers, à toutes les prisonnières et à leurs proches. Et rediffusion mercredi matin.
8h30.
Merci. Heureusement que tu es revenu.
Et force, courage et détermination.
Merci beaucoup à l'envolée. Kanaki vaincra.
Merci
et
à toi.
Et il n'y a pas d'arrangement.
On part en croisade contre l'état avare. Représente les quartiers dissensibles en France et Navarre. Regarde à gare sous pétard, on craque les nantis.
Politiciens repartis.
Bande whisky gonze et c'est reparti. On se prétend pas prof, donc on donne pas de leçons. Traceur de mots sans rémission sur des fonds qui sont. Ici les jours passent, rien ne change. Dans les alentours, qu'on t'entend, mec, parti pour des allées sans retour. Tous attirés ou presque par le bisle à ses fesses. Sexe, ici et là, ça rafle des tiroirs. Qu'est-ce quoi? Qu'est-ce que tu veux faire contre ça? À force de faire miroiter, on veut juste ce qu'on voit. Et le convoi, la balle Brinks alimente mes rêves des dizaines de fois. Croire que ça rapporte plus que le respect de la loi. Jean honnête, se crève la santé à honnête. Les tailles de loin, le plus grand proxénète. Bombise propre et net, faut tenir le coup serré. Les coudes ne serait-ce que pour nos parents. On prend la tangue des gouvernants.
En France, chaque jeune se défend ce qu'il a. Marie Curie charme, chacun fronce des sourcils pour ce billet là. Chez nous, pas de star en costard blanc, aucun Rockefeller. Si tu baisses pas le frog dealer, tu deviens quelqu'un. Vivre et peiner, certains rêvent de palace. Hélas, rien de béné, vivre et peiner, hélas. Faut rester comme moi, las guerrier. Rien de pas, alors nique tout, bientôt on s'en va. Pas besoin de gaffe pour faire les sous là-bas. Avant, je veux du blé comme Luciano. Mort sans être vaincu, zoné en BMD capot et traîner des culs sur le capot. Avec les potes, ça rigole plus, tout s'en va, c'est sérieux. Les temps deviennent grave, gras. Je t'apprends rien, mais je dois le dire haut et fort pour mon clan. Au moins, j'ai l'arme en main. L'intention de triste est loin, en restant fidèle au mien. Opération coup de poing, section nique tout. En 9-7, FF, fais ta fête et nique tout.
Putain, qu'est-ce que tu veux que je dise aux gosses en face de moi qui font plus de thunes en un jour que moi dans le mois? Comment leur dire de retourner au lycée? C'est croix sur les cours, cours pour le fric. Et les gars, c'est avec le 12 carats, elle tombe dans tes bras. Vas-y, sors le 24. T'as droit au Kama Sutra, quel argument opposé à ces pseudo-vididiles? Le simple fait d'avoir la conscience tranquille, ça s'en fout bien pas mal. Tant que le cash régale, ça croit courir plus vite que les balles. Si le plan se déroule mal, la morale, aujourd'hui c'est moi qui te l'a fait. Demain peut-être essaierai-je d'élaborer le plan parfait. La tentation cherche, tu peux peut-être lutter. L'appel de l'argent des femmes, gazier, c'est au mieux d'y résister. Mes péchés, je crois que je m'en laverai plus tard. Pour l'instant je fais avec ce que j'ai, même si ça me fait chier. J'essaie de lutter, et je dis bien j'essaie. Qu'est-ce que tu veux? On n'est pas des MC gâtés. Les coups faciles et foireux qui rapportent gros. Je laisse ça, Scorsese. De Mars, on part en croisade contre l'état avare. Représente les quartiers dissensibles en France et Navarre. Regarde à gare sous pétard, on claque les nantis. Politiciens repartis. Bon, whisky gonze et c'est reparti. On se prétend pas prof, donc on donne pas de leçons. Crasheur de mon sang, émission sur des ponts qui sont. Opération coup de poing, section nique tout. Lève ton poing pour la révolution et nique tout. J'envoie ce fond qui sonne, toujours le même béton pour horizon. Baisons ce système qui nous mène la vie dure. Fureur de vaincre au fond du cœur, convaincre et lutter sans peur, accablé de reproches. Pourtant, on défend nos proches avant nos poches. Et les moments accrochent le son des canailles, mauvais garçons. Joue à fond qui family, équipe d'acharnés sans rémission. Pourquoi on se calmerait?
On vit pas dans des palmerets.
T'endors pas, garde un œil ouvert, tiens-toi prêt, gamin. La force est dans ta tête, la puissance dans tes mains. Je prétends pas montrer le chemin, mais c'est aujourd'hui qu'on construit demain. Je sème des rimes, tant pis si je passe pour un fada. Que je récolte nada, je reste hip-hop, soldat sans famas. Passe devant les...